Bonjour à tout le monde. Le titre du sermon aujourd'hui, mieux comprendre les fêtes du printemps. On entre dans une saison merveilleuse, tellement encourageante, les belles fêtes de Dieu. C'est le début du cycle des sept fêtes annuelles de Dieu. Et vous savez, on est tellement bénis, tous ceux qui sont là à l'église, ceux qui sont là depuis des années ou ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont baptisés ou ceux qui ne le sont pas. On est tellement bénis de connaître les fêtes de Dieu, de connaître Dieu, de connaître son plan. C'est à ça qu'il nous appelle, pour qu'on sache quel est notre rôle là-dedans et qu'est-ce qui nous attend. Parce que Dieu a en tête de nous donner la vie éternelle et de faire en sorte qu'on puisse un jour naître dans sa famille, devenir des êtres immortels, ayant l'éternité devant nous pour faire des choses extraordinaires, dont on parlera plus tard lors des fêtes des tabernacles qui viennent. Et rappelez-vous que c'est le gouverneur de l'univers lui-même qui a attiré chacun de ceux qui sont à l'Église à venir, à s'intéresser. C'est lui qui a mis dans notre esprit d'avoir un intérêt réel et d'être capable d'avancer là-dedans. C'est lui qui nous a appelés. Rappelez-vous ce que le Christ a dit à deux reprises dans Jean 6:44 et Jean 6:65-66 après. Il a dit, c'est le Christ qui parle, « Nul ne peut venir à moi, nul ne peut devenir chrétien si mon Père ne l'attire. » Donc, on voit par là que c'est le gouverneur de l'univers, le puissant gouverneur de l'univers qui a pris la décision dans chaque cas, pour chacun d'entre vous, et moi aussi, et mon épouse, pour qu'on soit intéressés. Et si on a fait du chemin, il nous a donné davantage de son esprit. Et après, il s'est passé autre chose. Voyons ce que Jésus a dit dans Jean, le chapitre 15. L'évangile de Jean, le chapitre 15. Quelque chose qui est tellement encourageant. Voyez ce que Jésus a dit à ses disciples. Et ça, c'est juste avant la Pâque, quand on regarde les textes. Jean 15 et le verset 16. C'est le Christ qui dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Donc, voyez-vous, c'est pas vous qui avez choisi d'aller au Christ. C'est pas moi qui ai choisi d'aller au Christ. C'est le Père qui nous a appelés. Et c'est marqué dans la Bible que beaucoup sont appelés par le Père. Mais il y en a très peu qui ont le courage ou qui prennent vraiment la décision de se mettre en marche puis de pouvoir aller plus loin. Mais il y en a beaucoup qui sont appelés, qui reçoivent le témoignage. Plusieurs ne bougent pas. Plusieurs trouvent ça intéressant, mais vont pas plus loin. Mais si on fait la démarche de vouloir vivre selon les lois de Dieu, il nous donne davantage de son esprit, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, le Christ intervient. Dans tous ceux que le Père a attirés au Christ, le Christ en choisit quelques-uns. Alors, si vous êtes là, à l'Église, que vous soyez un ancien ou un nouveau, arrivé dernièrement, qui venait de découvrir la vérité, le Christ vous a choisi. Si vous êtes baptisé, il vous a choisi définitivement pour que vous alliez jusqu'au bout avec son aide, si vous tenez ferme. Mais pour les nouvelles personnes, il est en train de vous choisir pour que vous fassiez partie de l'équipe. Alors, regardez ce qu'il dit. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Et c'est gros, ça. Ça, c'est le Christ qui nous dit ça. « Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Donc, on doit, dans nos vies, produire quelque chose qui n'était pas là. Produire ce que la Bible appelle les fruits de l'esprit. Plus d'amour, plus de patience, plus de bonté, plus de maîtrise de soi. Pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pourquoi il dit ça? Parce que ce fruit-là doit demeurer éternellement avec nous. Ça devient notre caractère. Plus on développe ça avec l'aide de Dieu, plus ça devient notre caractère. Et plus on ressemble au Christ. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors voyez-vous, ce qui s'est passé dans la vie de tous ceux qui sont là, Dieu, le gouverneur de l'univers, a décidé de vous attirer au Christ. Et le Christ a décidé de vous choisir pour vous amener à faire partie de sa famille. Et regardez, en faisant ça, il nous a révélé des choses fantastiques. Il nous a fait connaître quoi? Ce que vous connaissiez pas avant, ni moi. le vrai but de la vie, ce qui nous attend au-delà de cette courte vie physique mortelle. Et il nous a révélé de comprendre les événements qui se passent et où tout ça va nous mener. Et il nous a montré, en plus, toutes les promesses qu'il nous donne pour nous aider à arriver au but. Tout ça pendant que le reste du monde, et je ne vous cache rien, et je ne vous apprends rien non plus, pendant que le reste du monde autour de nous, frappé par les problèmes économiques, les problèmes de pandémie, les problèmes de toutes sortes, sont dans la confusion et ne comprennent pas ce qui vient, sont angoissés, sont inquiets, alors que vous et moi, nous savons ce qui vient et nous avons le bonheur de pouvoir compter sur le tout-puissant Créateur du monde. Il y a très peu de personnes appelées à notre époque. Et quand vous regardez dans la Bible, vous pouvez aller voir dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 26 et 27, le Christ nous dit que ce sont les faibles du monde qui ont été appelés. Dieu appelle les faibles du monde. Je pense qu'il y a une raison pour ça, parce que ceux qui sont faibles ont peut-être plus la disponibilité de se voir comme pas puissants et d'accepter l'aide absolument nécessaire de Dieu. Il y a sûrement d'autres raisons, je ne peux pas tout vous expliquer, mais ça nous laisse entendre que s'il appelle les choses faibles et folles du monde, comme il dit, on n'est pas des gens importants aux yeux du monde, ceux que Dieu appelle. Par contre, ce sont des gens simples dans lesquels Dieu a vu qu'avec son aide, il pourrait arriver au but. Ça, ça fait toute la différence. Et vous pourrez aller voir aussi dans Matthieu 13, verset 11. Le Christ a dit quelque chose qui va dans le même sens. Le Christ a dit à ses disciples, donc il vous le dit à vous et moi aussi, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Ce que je viens de vous mentionner tantôt. Si vous et moi, on peut comprendre le plan de Dieu de plus en plus, même si on ne comprend pas parfaitement, c'est que ça nous a été donné. C'est un autre don de Dieu. Voyez-vous comment Dieu s'intéresse à nous et tout ce qu'il fait pour nous, ce qu'il nous donne. Le Christ a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. En parlant du reste du monde, qu'ils ne comprennent pas pour l'instant. Ils auront leur chance plus tard. Mais à vous et à moi, qui sommes à l'Église, il nous est donné de comprendre et de saisir aussi dans ça le sens des essentielles fêtes divines. Et vous savez une chose, ça c'est important qu'on le réalise. Combien d'églises sur la terre connaissent les fêtes de Dieu et les mettent en pratique et les comprennent? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Je pense qu'il y a seulement la vraie Église de Dieu, la petite Église de Dieu, qui les connaît, qui les met en pratique et qui les comprend de plus en plus complètement et qui les annonce. Il y a certains groupements religieux qui en observent quelques-unes, mais ils ne les comprennent pas non plus. Quand on regarde la littérature puis tout ça, on voit qu'ils ne les comprennent pas. Alors voyez-vous que, pour vous et moi, là, le fait de célébrer les fêtes qui sont tout juste à nos portes, ça nous fait réaliser que nous sommes à part, que nous sommes sanctifiés par Dieu, mis à part dans une catégorie spéciale. À qui il est donné de comprendre ces choses-là pour les mettre en pratique? Et plus on le fait, plus Dieu veut nous bénir. Pour le moment, le monde ne les comprenne pas, les fêtes. Mais ils les comprendront un jour. Et ils les observeront. Le Christ les a observés. Les disciples originaux les ont observés. Et nous les observons, l'Église, à travers les siècles, les a observés également. Et les sept fêtes de Dieu sont tellement importantes qu'elles décrivent précisément les sept étapes que le plan de Dieu comprend. Les sept étapes du plan que Dieu a établi pour l'humanité, pour que chacun de tous ceux qui auront vécu dans l'histoire, pour que chacun puisse avoir la chance d'être appelé en son temps pour connaître la vérité, et choisir d'obéir ou non à Dieu. Si je fais un rapide survol des fêtes, il y a la Pâque qui est toute proche. Et vous savez, la Pâque, là, ça, c'est la base. Sans la Pâque, il n'y a pas les autres fêtes. Sans le Christ, qui est la pierre angulaire de tout l'édifice, il n'y a pas d'édifice. Le Christ, il est la Pâque. Il est notre Pâque. Il est le sauveur de toute l'humanité. Parce que le salut, la vie éternelle, sera offerte graduellement à tous les êtres humains qui ont vécu. Et lui, il est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour offrir le salut à toute l'humanité. Alors, tout de suite après la Pâque, le lendemain, c'est le début des 7 jours de la fête des pains sans levain. Et c'est normal que ça arrive tout de suite après. Parce qu'une fois qu'on est pardonné, qu'on a passé par les eaux du baptême et qu'on peut prendre la Pâque, chaque année, ce sont les membres baptisés qui prennent la Pâque, à ce moment-là, nous avons une part à faire. C'est de continuer à nous purifier. Comme on a fait avant d'être baptisé, quand Dieu nous a montré les fautes qu'on faisait, on a travaillé pour les éliminer. Mais après qu'on a été baptisé, on continue encore plus profondément avec le Saint-Esprit de Dieu, cette fois-là, en nous. Alors qu'avant ça, il était seulement avec nous. Alors, la Pâque, première fête, essentielle. Tout de suite après, la fête des pains sans levain, pour nous montrer que nous qui sommes appelés, nous devons nous purifier et amener notre vie à être de plus en plus selon les lois de Dieu. Et pour ça, on sort les produits levés et le levain de nos maisons qui symbolise pour cette période-là le péché. Et pendant ce temps-là, on s'examine spirituellement pour voir ce qu'on a à changer. Après ça, plus tard dans la saison, il y a la Pentecôte, qui est formidable parce que la Pentecôte, ça révèle le fait que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui veulent lui appartenir, à ceux qui sont appelés, pour avoir la force d'être capable de faire sa volonté. Plus tard dans la saison, on s'en va à l'automne ensuite. Là, il y a 4 fêtes, les 4 dernières fêtes des 7 fêtes qui se suivent, 4 fêtes qui se suivent de façon rapprochée et qui ont une signification merveilleuse. Vous avez d'abord la fête des trompettes. Ça, c'est le retour du Christ à la 7e trompette, après une année terrible qui aura frappé la terre entière. Mais c'est l'arrivée du Christ pour établir son gouvernement. Et tout de suite après son arrivée, lorsqu'on célèbre les fêtes d'automne, il y a la fête des expiations. Elle représente aussi un événement tellement important parce que c'est la mise à l'écart de Satan et de ses démons qui n'influenceront plus négativement l'humanité pour les faire s'entretuer, se haïr et se détruire. Alors, Satan et ses démons seront liés. Après ça vient tout de suite après la fête des tabernacles qui représente le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre. Et là, tous les êtres humains qui seront encore vivants à ce moment-là seront appelés. C'est là qu'ils seront appelés. Comme vous et moi, nous sommes appelés maintenant. Ce sera leur temps pour être appelés. Alors, c'est ce que représente cette merveilleuse fête des tabernacles qu'on célèbre à l'automne. Et tout de suite après la fête des tabernacles, il y a un dernier jour, un 8e jour qui est associé à cette période de 7 jours de fête des tabernacles, le dernier grand jour, qui lui représente le moment où Dieu va ramener à la vie physique tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève. Ça, c'est merveilleux. Vos ancêtres, les miens, vos parents, mes parents, nos enfants qui sont morts, nos amis, et ainsi de suite. Tous ces gens-là vont être ramenés à la vie physique, comme vous et moi, et à ce moment-là, Dieu va les appeler, va lever le voile de leur compréhension. Et nous, on aura un rôle à jouer là-dedans. Parce que si on est fidèle jusqu'au bout, on fera partie de l'équipe du Christ pour enseigner les nations, pour les guérir, pour les encourager, pour leur expliquer ce qui est arrivé dans l'histoire, pour leur expliquer l'importance du sacrifice de Jésus et que ce sacrifice-là peut s'appliquer à eux aussi. S'ils se repentent, s'ils demandent pardon, s'ils veulent que leur vie entière passée soit lavée de toutes leurs fautes, et qu'ils puissent recevoir à leur tour le Saint-Esprit pour être capables de vivre selon les lois de Dieu. Mais à ce moment-là, ce sera plus facile pour eux, parce que Satan sera plus là pour les tenter et pour mettre toutes sortes de situations sous leurs yeux pour les amener à pécher. Mais ce sera le temps où tous les êtres qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que vous et moi, nous sommes appelés à ce moment-ci de l'histoire? Pourtant, on est à la toute fin aussi. Mais Dieu a une œuvre à accomplir jusqu'au retour du Christ. On est appelé aujourd'hui pour soutenir cette œuvre-là, pour prier pour nos dirigeants, pour prier pour ceux qui ont la responsabilité d'annoncer l'Évangile au monde entier, par toutes sortes de moyens, par nos conférences à nos abonnés, par les médias, par Internet, par nos publications, par nos émissions de télévision. Alors, faut prier, soutenir les bras de ceux qui font ce travail-là et de ceux qui sont au-dessus de nous pour nous guider, pour nous corriger aux besoins, pour nous encourager, pour nous soutenir, afin qu'ils aient la force de le faire et qu'ils aient la sagesse de Dieu d'intervenir pour nous au bon moment. Et c'est formidable. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les ministres qui l'ont fait envers moi dans le passé, qui m'ont montré des choses que j'avais à changer, que j'avais à comprendre. Et ça va être encore le cas parce que l'œuvre n'est pas terminée et mon changement n'est pas terminé, ni le vôtre non plus. Alors, nous sommes appelés pour soutenir l'œuvre. Pour soutenir l'œuvre par nos prières aussi, les uns pour les autres. Pour soutenir nos frères. Ça fait partie de l'œuvre, de nos responsabilités. D'encourager nos frères et nos sœurs, prier pour eux. Un petit mot, un coup de téléphone, un petit message Internet. Et en même temps qu'on soutient l'œuvre de toutes ces façons-là, bien sûr par nos dîmes et nos offrandes, mais en même temps qu'on soutient l'œuvre de toutes ces façons-là, c'est de se préparer, en faisant ça, à servir dans le monde à venir, sous le Christ, pour aider les nations. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Allez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et on va lire le verset 13. Regardez ce que Paul dit ici aux membres de l'Église de Thessalonique. Pour nous, frères bien-aimés, et c'est la même chose pour nous dans le ministère, on aime les frères et les sœurs, ceux que Dieu a attirés au Christ et qui sont là, et qui font des efforts pour faire la volonté de Dieu. On les aime, on veut les servir au mieux, et on demande à Dieu de nous aider pour ça. Et on a besoin de vos prières. Et je vous remercie de le faire, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous le faites régulièrement, et ça fait toute la différence. Pour nous, c'est Paul qui parle, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Oui, on remercie Dieu de vous avoir appelé. L'important, c'est pas que moi je sois appelé. L'important, c'est que la volonté de Dieu soit faite, et que ceux que Dieu a daigné appeler dans sa grande miséricorde aient soin les uns les autres et se soutiennent. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Et regardez, c'est la même chose aujourd'hui. C'est à ça que vous avez été appelés, par le même évangile que Paul annonçait et que nous, en tant que petits bergers, sous le grand berger, le Christ, nous avons la responsabilité d'annoncer. Et c'est à travers cet évangile-là que vous avez été appelés, soit par la télévision, soit par les écrits, soit par les exemples de quelqu'un d'autre autour de vous, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Parce que son but, c'est qu'un jour, on devienne des êtres immortels, glorieux, nés dans sa famille, les petits frères et les petites sœurs de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut depuis toujours. Et il nous a appelés maintenant pour que nous nous préparions à ça. Il nous a appelés au salut, à ce salut-là qui est dans la gloire. Il parle des faibles humains que nous sommes, faits de poussière. Et s'il ne nous rachète pas, comme nous sommes coupables de la mort du Christ, comme nous sommes coupables d'avoir tous péché, tous les humains ont péché, et que le salaire du péché, c'est la mort éternelle, pas la mort physique, mais la mort éternelle, il n'y a pas d'espoir pour nous s'il n'y a pas de Pâques, si la Pâque n'existe pas, si le Christ n'est pas venu. Mais le Christ est venu, il a donné sa vie dans des souffrances épouvantables, horribles, pour que lorsqu'on se repent, lorsque Dieu nous appelle, qu'on se repent, qu'on regrette d'avoir transgressé ses lois et causé la mort de notre Créateur, quand on passe par les eaux du baptême, on est lavé de notre vie passée, et là, on peut recevoir par l'imposition des mains le Saint-Esprit de Dieu pour être capable d'aller vers le but, avec la promesse de Dieu qu'on va y arriver si nous n'abandonnons pas. Alors, on est appelé dans ce sens-là au salut. C'est-à-dire, on est appelé au sauvetage. C'est un sauvetage de la mort éternelle. Sauver de la mort éternelle, le contraire, c'est de recevoir la vie éternelle. C'est ça, d'être sauvé de la mort éternelle. Mais il y a plus que ça pour nous qui sommes appelés à ce moment-ci de l'histoire. Parce que là, on voit qu'on entre dans les derniers gros soubresauts qui vont nous mener directement à la grande détresse. Alors, pour nous, cet appel au salut ou au sauvetage, c'est pas simplement sauvetage de la mort éternelle en bout de ligne, si on est fidèle, mais c'est aussi d'être sauvé de la grande détresse qui approche. parce que Dieu a fait des promesses précises à ceux qui seraient fidèles. On voit ça dans Apocalypse 3, verset 10. Tu as gardé mon nom, tu as gardé mes lois, je vais aussi te garder, je vais aussi te protéger lors de la grande détresse qui viendra pour frapper tous les habitants de la terre. Dieu va nous protéger, c'est une promesse, si nous faisons notre part. Et c'est là qu'intervient la compréhension de la Pâque et des pains sans levain, pour vraiment les apprécier et les vivre de bonne façon. Parce que tout ça fait partie d'une préparation, là. Si on fait ça au mieux, c'est qu'on montre à Dieu qu'on y tient et qu'on est vraiment complètement là, de tout cœur, là. Par son appel au salut, Dieu nous a donné, et ça c'est formidable, un nouveau départ. Il n'y avait pas d'espoir pour nous si Dieu ne nous avait pas appelés et s'il n'y avait pas eu auparavant le sacrifice parfait du Christ pour payer l'amende à notre place de nos fautes. Dieu nous a offert le pardon de toutes nos fautes passées et il nous a offert la vie éternelle. C'est ça. C'est pas peu de choses. C'est pour ça que quand les fêtes du printemps arrivent, la Pâque, les pains sans levain, d'une année à l'autre, il faut l'examiner comme il faut et approfondir la valeur de ces choses-là qui nous ont été offertes, qui nous sont données. Et c'est pour ça qu'il est écrit à différents endroits dans la Bible. Vous pourrez aller voir, entre autres, Hébreux 2, verset 3. Je ne m'y reporterai pas, mais Hébreux 2, verset 3 nous dit ceci. Ne négligez pas un si grand salut. Ne négligez pas un si grand salut. Il y a tellement de choses autour qui peuvent nous déranger, surtout de ce temps-là, avec toutes ces annonces interminables de COVID et tout ça. Vous savez, à un moment donné, il faut faire le ménage là-dedans aussi et pas rester toute la journée branché là-dessus. Nous, il faut se brancher maintenant sur les fêtes du printemps et ne pas négliger ce qui est l'essentiel. Ces événements-là qui se passent autour, là, ils vont sans doute continuer pour un bout de temps, semble-t-il. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter, peut-être des plus graves encore, pas peut-être, des plus graves encore. Mais voyez-vous, c'est que dans tout ça, nous, on doit garder les yeux sur notre Sauveur qui nous a promis de nous amener à bon terme si nous faisons notre part et si nous sommes fidèles. Donc, si nous gardons nos yeux sur lui d'abord, pas sur toutes ces choses-là autour. Bien sûr, faut surveiller les événements pour voir où on est rendu, mais faut pas que ça prenne la place de l'autre, c'est ça que je veux dire. Faut que l'autre reste une priorité. Servir Dieu, examiner pourquoi on fait les fêtes, l'importance de ces fêtes-là, bien nous y préparer pour plaire à Dieu puis vraiment s'approcher de lui. Il y a des choses à méditer puis à faire pour se préparer à ça. Philippiens chapitre 2. Allez dans l'Épître aux Philippiens, s'il vous plaît. Les gens de la ville de Philippe. Philippiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés. » C'est intéressant que souvent Paul prend cette expression-là, « mes bien-aimés. » Et c'est comme ça dans l'Église. Il faut que ce soit comme ça entre nous. C'est notre nouvelle famille. Et c'est le début de notre famille éternelle. Il y a toute cette dimension-là. Notre famille physique est importante. On les aime, c'est vrai. Mais beaucoup de gens dans nos familles physiques ne nous comprennent plus ou même n'acceptent pas que nous ne célébrions plus les fêtes qu'on célébrait avant ou qu'on ne fasse plus les choses qu'on faisait avec eux avant. Mais nous, on doit tenir bon dans le chemin de Dieu. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Voyez-vous, il y a des efforts à faire. Ça ne nous est pas donné gratuitement, là. Oui, le salut est gratuit, mais on a des efforts à faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et ça, ça nous donne une dimension importante de la purification qu'on a à faire. C'est pas parce que quelqu'un ne nous voit pas qu'on ne doit pas ne pas pécher. Ça doit être constant. On doit travailler à ne pas pécher, à ne plus pécher dans toutes circonstances, que quelqu'un nous voit ou non. Parce que c'est toujours entre moi et mon Dieu qui m'a appelé, et Jésus-Christ, mon Sauveur. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et voyez-vous, on peut avoir toute l'aide dont nous avons besoin pour passer à travers les épreuves et pour nous purifier et pour vaincre nos faiblesses Dieu met à notre disposition toute l'aide nécessaire. Mais il faut le vouloir et il faut l'utiliser, cette aide-là. C'est ça. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Même si on n'est pas parfait, si on est en train de le faire, il nous considère comme irréprochables et purs. Oui, parce qu'on est en train de s'en aller vers la perfection. Des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et plus ça va aller, plus nous serons, vous et moi, différents des gens autour de nous, de leur façon de vivre, de leur façon de parler, de leur façon d'agir. Plus on sera différent et plus on va paraître comme des flambeaux. On sera visible parce qu'on n'est plus comme on était avant. Et comme le monde continue à enfoncer dans le mal encore plus, on sera très différent. Très, très différent. Paul nous dit comment nous préparer à prendre la Pâque. Là, je mets l'accent maintenant sur ceux qui vont prendre la Pâque, les membres baptisés. La Bible nous montre que seulement les membres baptisés qui peuvent prendre la Pâque. Ceux qui ne sont pas baptisés, faites les examens de la même façon, comme si vous étiez baptisé, parce que ça, c'est une préparation au baptême que vous allez avoir un jour ou l'autre, si vous continuez dans le chemin où vous allez. Alors, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Lisons le verset 27. Ici, il parle de la façon de prendre la Pâque. On s'apprête à la prendre, tous ceux qui sont baptisés entre nous. Il y a une façon de se préparer et c'est pas difficile à comprendre. Il faut pas en avoir peur non plus. Mais faut le savoir et le faire honnêtement, simplement, de tout cœur. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur, ça c'est au moment où on prend la Pâque, on prend un petit peu de pain, un petit morceau de pain sans levain, qui représente le corps du Christ sans péché, qui a donné sa vie pour nous, et le petit peu de vin qu'on prend à ce moment-là, qui représente son sang versé. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ça, c'est la Pâque. Prendre un petit peu de pain sans levain, un petit peu de vin. Et ce n'est pas un rituel. C'est pas une routine sans signification, là. C'est très important. C'est profond. C'est une action personnelle qui est commandée par Dieu. Et ça a un sens extrêmement profond. C'est un rappel, chaque année, du sacrifice de Jésus. Il a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. Et on le fait, comme la Bible nous montre, une fois par année, au moment précis de célébrer la Pâque. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. S'éprouver, ça veut dire s'examiner pour voir si on est dans une bonne attitude, voir ce qu'on a encore à changer. S'encourager aussi de voir ce qu'on a réussi à changer au cours de l'année. On a besoin de ça aussi. Vous avez sûrement des succès que vous avez eus au cours de l'année. Moi, j'en ai eu quelques succès que j'ai eu au cours de l'année. Ça m'encourage quand j'y pense. Faut que je dise merci à Dieu parce que c'est lui qui m'a aidé à les faire. C'est lui qui m'a montré les choses que j'avais à changer. Puis je lui demande de m'en montrer encore parce que c'est pas terminé. Mais il dit que chacun donc, s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe, en appréciant la miséricorde et le sacrifice du Christ. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, c'est lourd de conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais m'approcher pour prendre les symboles de la Pâque, le pain, le vin, faut que je réalise l'immensité un peu de la grandeur du sacrifice de Christ. Je ne peux pas la voir dans son entièreté, je dirais. Mais il faut que j'en vois la grandeur et que je l'apprécie profondément. Ça, c'est de prendre la Pâque dignement. C'est pas faire les choses à la légère. Dire, je vais prendre les symboles comme ça, bon, j'ai pris ma Pâque. Non, non, non. Faut que j'y pense avant, que je m'examine, que je vois ce que j'ai réussi à changer, que je regarde ce que j'ai encore à changer, que je demande l'aide de Dieu pour changer encore. Et en arrivant à la Pâque de cette façon-là, j'arrive de bonne façon pour la prendre dignement, avec l'attitude encore de vouloir changer les autres choses qui me restent à changer et que Dieu va sûrement me montrer au cours de l'année. D'ailleurs, je peux lui demander qu'il me montre à faire les choses que j'ai à faire. Dieu voit notre attitude au moment de la Pâque. Dieu voit comment nous la prenons et lui est prêt à nous aider à aller plus loin. Mais il ne veut pas qu'on fasse l'erreur de considérer indignement la Pâque, de prendre ça à la légère et de ne pas arriver avec beaucoup de reconnaissance. Une joie profonde, c'est pas une tristesse. D'accord, le sacrifice de Christ était épouvantable, mais il l'a fait par amour pour nous. Et s'il l'a fait, c'est notre espoir de vie éternelle. Et il l'a fait pour que nous en bénéficions. Et en bénéficier, c'est voir notre vie passée lavée de ses fautes et notre vie présente, lorsqu'il nous arrive encore malheureusement de tomber, quand on va demander pardon, il nous lave encore de ces fautes-là, à condition qu'on se repent et qu'on est vraiment en train de faire ce qu'il faut pour changer. Voyez-vous? Alors, il veut qu'on arrive dans cette attitude-là, une attitude qui veut continuer à être repentant. Parce qu'il y a des conséquences si on ne change pas ce qu'on a à changer. Et c'est pour ça qu'il dit après, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu ne serait pas obligé de nous laisser subir, par exemple, les conséquences physiques de nos mauvais choix physiques. Écoutez, fumer ou vapoter, c'est faire tort à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a des conséquences. Quelqu'un qui mange trop, il y a des conséquences à ça. C'est physique, mais il y a une dimension spirituelle. Il y a ça aussi. Voyez-vous? Et ça fait partie de prendre dignement la part, de s'examiner dans les choses qu'on doit changer. Boire trop. Quelqu'un qui boit trop d'alcool, quelqu'un qui s'enivre, c'est de l'idolâtrie, comme la Bible dit. C'est d'avoir un autre Dieu à la place de Dieu. Et en plus, ça fait des dommages au corps et ça fait des dommages à l'esprit, beaucoup, et à différents degrés. Et ceux qui s'enivrent, ceux qui ont un problème d'alcool, peuvent avoir de grands regrets, mais il y a des actions qui ne sont pas corrigeables ensuite, qui ne peuvent pas être réparées, pour ainsi dire. Des choses que les gens ont dit, ont faites, qui ont créé beaucoup de problèmes, mais parfois il y a eu des brisures dans les relations. Le mauvais exemple qu'on a donné à ce moment-là. On a ces responsabilités-là. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ben faites attention. Quand vous voyez qu'il y a des choses à changer, prenez le taureau par les cornes. Demandez à Dieu son aide. Prenez les décisions qu'il faut pour vous éloigner des choses desquelles vous devez vous éloigner. Si vous avez des activités sexuelles qui sont contraires, par exemple, aux lois de Dieu, faut prendre des mesures pour éviter ça. Sans ça, il y a des problèmes. Il y a des maladies et il y a la mort. Il y a les maladies vénériennes, il y a tout ce qui vient avec ça aussi. Et c'est pour ça qu'il dit, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont infirmes, parce qu'ils n'ont pas pris la part comme il faut et ils ont envisagé de façon inconsidérée de continuer à transgresser les lois de Dieu alors que Dieu leur avait montré de cesser de faire ces choses-là pour recevoir ces bénédictions, pour être protégés, ne pas avoir toutes ces conséquences-là. Appréciez la Pâque. Appréciez le pardon que Dieu nous a donné au baptême pour ceux d'entre nous qui ont été baptisés. Et le pardon que Dieu nous accorde encore quand nous regrettons sincèrement de nous être trompés parce qu'il nous arrive encore de manquer notre coup. Il faut prendre les moyens avec l'aide de Dieu. Prendre les moyens aussi de ne pas retourner à nos fautes. Parce que Satan met sur notre chemin. C'est lui qui est le petit Dieu de ce siècle, hein? Le Dieu du monde. Et il a à sa disposition tous les moyens du monde, tous les moyens électroniques, la presse, Facebook, Internet, tout ce que vous voulez, la télévision, les films, pour nous amener à voir des choses qu'on ne devrait pas voir, qui vont rester imprimées dans notre esprit, qui vont nous faire désirer des choses contraires à Dieu aussi en plus, par la suite. Alors voyez-vous, ça c'est le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de l'adversaire. Et plus ça va, plus on va voir de risques pour chacun des chrétiens de faiblir et dans certains cas de retourner au vomi. La Bible dit que c'est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Quand on retourne à nos grandes fautes anciennes, faut être prudent par rapport à ça. Faut rester plus loin que proche. Faut pas, autrement dit, aller le plus loin possible sur le bord du précipice. Faut rester le plus loin possible du bord du précipice. Ça, c'est la part qu'on a à jouer. Bien sûr, faut supplier Dieu pour qu'il nous aide à le faire. Mais Satan va tout faire. Et Satan sait, pour vous comme pour moi, quels sont les points qui peuvent nous attirer et comment il pourrait nous ramener à nos fautes anciennes. pour ça qu'il faut s'éloigner le plus possible, mettre des barrières. S'il faut cesser d'aller à certains endroits, cessons d'aller à certains endroits. S'il faut ne plus avoir à la maison certaines choses, ne les gardons plus. S'il faut ne plus fréquenter les mêmes personnes parce que ces personnes-là nous amènent à des compromis, coupons les liens. Notre priorité, c'est de plaire à Dieu, de nous préparer pour le royaume, de devenir ses lumières dans le monde où nous sommes, qui va devenir de plus en plus méchant. Donc, avant et durant les fêtes du printemps, il faut prendre le temps, comme l'apôtre Paul nous en parle, de nous examiner honnêtement. D'identifier, par exemple, ce qui ne doit plus être dans nos vies. Et on en a tous. Je suis le premier à en avoir. Je suis pas parfait. Il y a encore du chemin à faire, beaucoup de chemin à faire. Il faut voir ce qu'il y a à éliminer encore. Pas pour nous décourager, mais pour voir de quelle façon on peut continuer d'avancer. C'est pour ça que Dieu nous dit, examinez-vous, pour prendre la part dignement, pour être capable de continuer d'avancer et pour que notre part soit valable, qu'elle ne soit pas, pour ainsi dire, une offense à Dieu, mais qu'elle lui plaise. Qu'elle voit quelqu'un qui vient prendre les symboles de la part avec beaucoup de reconnaissance, une joie profonde d'être lavé de ses fautes, et un désir d'aller plus loin puis de se rendre à la vie éternelle. Vous savez, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est très, très clair. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être des vainqueurs. Il faut vaincre graduellement nos faiblesses. Il y a des faiblesses qu'on peut vaincre vite. D'autres, c'est plus long, mais il faut s'y atteler sérieusement. Notre part, c'est de résister aux tentations du monde. Tite 2, s'il vous plaît. Allons à Tite, deuxième chapitre. Titre 2, les versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, c'est son pardon, c'est sa miséricorde. Et c'est là que commence notre chemin vers le salut, vers la vie éternelle. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pas tous en même temps, parce qu'on n'est pas tous appelés en même temps. Le reste du monde sera appelé juste après le retour de Christ. Source de salut pour tous les hommes. Il dit ça parce que le but de Dieu, c'est d'offrir le salut à tous les êtres humains. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est les transgressions des lois de Dieu. Alors, la miséricorde qui nous a été donnée, la grandeur de son pardon dans l'immensité du sacrifice de Christ, il dit ça, ça nous a été enseigné pour qu'on renonce à l'impiété. Ça nous a été donné pour qu'on renonce à l'impiété, qu'on change de direction complètement et à vivre dans le siècle présent, le siècle mauvais, là, selon la sagesse, la justice et la piété. Voyez-vous complètement au contraire de ce que nous vivions avant et au contraire de ce que la société vit et de la direction où elle se dirige de plus en plus profondément. Et regardez le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Et quand cette gloire-là sera manifestée, quand le Christ va paraître, il est dit ailleurs que ceux d'entre nous qui auront été fidèles pour continuer à lutter, à changer, à s'améliorer d'ici le retour de Christ, nous paraîtrons aussi dans la gloire avec le Christ. Quand vous regardez les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse, ça décrit les sept étapes historiques de l'Église de Dieu. Et dans les sept étapes, il est répété que seuls les vainqueurs, ceux qui travaillent à éliminer leurs fautes, seront dans le royaume. C'est simple, c'est très très simple. Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vécu selon les lois de Dieu de plus en plus et qui auront vaincu leurs faiblesses graduellement. Et laissez-moi vous dire ceci, ils n'auront pas terminé le jour où le Christ reviendra, mais ils seront en train de le faire. Si nous ne sommes pas encore en train de le faire à ce moment-là, nous n'y serons pas. Il faut que le cœur y soit. Et même si on n'a pas réussi parfaitement, Dieu va nous aider, rendu là, et la Bible nous dit qu'il va en un instant nous transformer en être éternel. Et il va nous donner la perfection vers laquelle on sera en train de s'en aller. Écoutez, dans les jours qui restent, d'ici la Pâque et la fête des pains sans levain, les sept jours des pains sans levain, Il y a des moyens qu'on peut prendre pour s'aider à faire ce que Paul dit, là, à nous examiner sérieusement pour nous préparer à prendre la Pâque dignement, avec joie, avec un esprit paisible et serein. Ça aide d'écrire. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'écrire les choses que vous avez à changer. Pensez-y. Pensez à ce que vous avez à changer, ce que vous désirez changer dans les mois à venir. Mettez-les sur papier, ces choses-là, pour vous en rappeler et retournez voir de temps en temps. Et peut-être mettre une petite note si vous avez avancé un peu là-dedans ou pas suffisamment. Mais le fait de faire une liste, une petite liste, ça peut être une liste plus longue, là, mais une liste des choses qu'on a à changer, à améliorer, ça nous aide parce que ça nous permet de les identifier clairement. Donc, de faire sérieusement la préparation de la Pâque. Une autre chose qu'on peut faire aussi dans les jours qui viennent avant la Pâque, et ça, c'est précieux, c'est de prendre la brochure sur les 10 commandements. Le 10 commandements. Et vous pouvez, mettons, prendre 2 commandements par jour. Prendre le temps de les lire, de les examiner, d'y réfléchir. Et si vous voyez là-dedans des petites choses à changer, des grosses choses à changer, le mettre sur votre liste de choses à changer. Mais vous allez voir, si on prend le temps de revoir les 10 commandements dans la brochure avec les explications, ça rafraîchit nos connaissances pour ceux qui sont là depuis longtemps et ça nous aide automatiquement d'aller plus loin. Parce que la parole de Dieu, là, elle est vivante. Et elle continue d'être vivante. Elle continue de nous aider à aller plus loin. On n'a pas tout vu, on n'a pas tout compris, c'est pas vrai. Même si on est dans l'Église depuis 30, 40 ou 50 ans, comme certains d'entre nous, on a encore beaucoup à apprendre et à approfondir. Et notre développement ne doit jamais s'arrêter. On doit être en croissance. Ce qui n'est pas en croissance, ce qui est stagnant, à un moment donné, tend à diminuer. Et c'est là qu'on risque de perdre. Alors, on peut prendre la brochure sur les 10 commandements, donc, et relire, comme 2 commandements par jour ou 1 commandement par jour, selon le nombre de jours qui nous reste, et passer à travers. Une autre chose à faire, c'est de noter un plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire pour régler tel problème que j'ai? Mettre par écrit les moyens que je peux prendre. Et ça, ça nous permet vraiment de le réaliser puis de nous aider à voir qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse de façon pratique. Allez à Matthieu chapitre 7, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ici, on voit un principe important et c'est un avertissement ici à moi qui suis un ancien dans l'Église, qui suis là depuis plusieurs années, mais à plusieurs d'entre vous qui êtes là depuis plusieurs années aussi. C'est un avertissement pour les plus anciens baptisés d'Église. C'est qu'il faut plus que simplement faire le sabbat, célébrer les fêtes, payer les dîmes et ainsi de suite. Il faut vraiment obéir à Dieu de tout cœur et continuer de le faire et continuer d'améliorer notre obéissance. Continuer de s'améliorer et de se purifier. Regardez Matthieu 7, début du verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Voyez-vous, ceux qui savent, ceux qui parlent de Jésus, ceux qui le prient même, ceux qui désirent le royaume, mais qui s'arrêtent là, qui ne travaillent pas ardemment à changer, sans vraiment lutter pour changer, ne lui appartiennent pas vraiment. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous comme c'est clair? Pas celui qui est parfait à faire la volonté, on ne l'est pas encore. Mais celui qui est en train de le faire, ça c'est toute la différence. Je connais des gens qui sont dans l'Église depuis un certain nombre d'années, qui continuent avec un zèle ardent, exemplaire, de lutter pour changer, puis cherchent les choses à changer, puis veulent faire plus, veulent faire mieux. Quand je les vois faire, je me dis, ceux-là sont vraiment en direction du royaume. Et ils sont prêts. Si ça arrivait demain, si jamais ils s'endormaient eux demain, ils sont prêts pour le royaume. Et sinon, si ça attend au retour de Christ, bien, s'ils continuent le même procédés, ils vont être prêts et ils vont être transformés à ce moment-là. Et regardez après ça, verset 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? On a parlé de toi, on a annoncé les choses à venir, on connaissait la prophétie. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est clair, hein? Ça, c'est ceux qui n'ont pas de réelle obéissance, qui n'ont pas développé une réelle relation avec leur Dieu. Si je résume, par exemple, le cheminement de tous les baptisés qui sont dans l'Église et qui va devenir éventuellement, un peu plus tard, le cheminement complet de ceux qui sont appelés, qui sont là à l'Église et qui sont en train de se préparer. D'abord, on est appelé. Par qui? On l'a vu tantôt. Par le gouverneur de l'univers. On est attiré au Christ. Et parmi tous les appelés, ceux qui ont eu à cœur de vouloir changer et qui ont fait du chemin, ils ont été choisis par le Christ pour faire partie de l'élite. Ils se sont repentis. Ils ont passé par les eaux du baptême à ce moment-là. Toute leur vie passée a été effacée. Et là, après, ils ont reçu, par l'imposition des mains d'un vrai serviteur de Dieu, qui enseigne le sabbat, les fêtes, toutes ces choses-là, ils ont reçu le Saint-Esprit au moment de l'imposition des mains. Ils ont eu l'aide dont ils avaient besoin et ils vont l'avoir jusqu'au retour du Christ s'ils continuent de la demander et de l'utiliser dans leur vie. Ça, c'est le cheminement des baptisés, ceux qui vont prendre la part cette année. Alors, voyez-vous, apprécions plus profondément les fêtes du printemps et tout ce que Dieu nous a donné. Il faut avoir une simplicité de cœur. C'est pas compliqué ce que Dieu nous demande de faire. Et il nous donne toute l'aide nécessaire. Si on le supplie dans la bonne attitude, il va nous répondre. Même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, ou si parfois on vit des situations extrêmement difficiles, comme c'est le cas pour plusieurs, et plus les situations dans le monde vont devenir compliquées, plus elles le sont pour nous aussi. Mais nous, on a la confiance en un Dieu qui va nous aider à passer à travers ces choses-là. Il faut garder nos yeux sur lui. Alors, il faut apprécier profondément les fêtes divines du printemps et garder une simplicité de cœur et une confiance totale envers Dieu. Et c'est pas pour rien, vous savez, dans Matthieu 18, versets 1 à 3, et surtout verset 3, vous pourrez aller voir, le Christ nous dit, il disait à ses disciples, mais il dit à vous et à moi aujourd'hui, si vous ne vous convertissez pas, donc se convertir, ça veut dire changer, là, travailler à changer, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, un petit enfant, ça a confiance. Ça veut faire ce qu'on lui demande. De tout cœur, hein? Pas juste à moitié, là. De tout cœur. C'est comme ça qu'il faut devenir. Pas avoir peur de Dieu, mais craindre Dieu dans le sens qu'il est aussi un feu dévorant si on se détourne de lui. Et quand on a signé le contrat dans le sang de Christ, au moment de notre baptême, il n'y a pas de retour. Si nous retournons en arrière, nous perdons tout. Car Dieu est aussi un feu dévorant. Mais il dit, et là c'est encourageant, il dit, soyez comme des petits-enfants, ayez confiance en Dieu. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Encore là, c'est très clair. Il y a deux seules choses possibles. Mais pour arriver là, à ceux qui ont le bonheur d'être appelés, ils ont le bonheur d'avoir toute l'aide possible de l'univers à leur service. Malgré les circonstances. Et Dieu veut qu'on apprenne à continuer malgré les circonstances difficiles dans lesquelles on peut se trouver. C'est ça. Pour continuer d'être pardonné, ceux qui sont baptisés, pour continuer de se repentir. Et pour continuer de changer. Donc, pour continuer de se convertir. Allez dans Acte 3, s'il vous plaît. Acte 3, je vais vous lire un passage ici qui traite de ça. Et quand je revois ce passage-là, moi, je peux pas m'empêcher d'entendre la voix de M. Armstrong autrefois, quand il citait ce verset-là en nous montrant sa dimension. Acte 3, verset 19. C'est Pierre qui parle ici encore. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Ça, c'est un thème qui revient, un thème fondamental, parce que c'est le début de notre cheminement vers la vie éternelle. « Repentez-vous, regrettez vos fautes. Travaillez à ne plus les commettre. » Et convertissez-vous, travaillez à changer. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, oh, qu'ils seront rafraîchissants ces temps-là, quand le Christ reviendra, que nous serons transformés, qu'on ne péchera plus, qu'on n'aura plus de douleur physique, qu'on n'aura plus de peine, plus de chagrin, qu'on pourra consoler les autres, servir, aider, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Ça, ça a été annoncé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors, voyez-vous, ça doit changer notre vie au complet. Et ce changement-là doit se produire tout au long de notre vie. Et ça doit concerner tous les aspects de notre vie. Pas seulement quelques aspects, tous les aspects. La nourriture, l'habillement, la façon de parler. Lorsqu'on connaît le vrai Dieu, qu'on connaît sa culture, sa façon de penser, sa façon de faire, ça nous fait voir un peu comment ça va être dans le monde de demain. Mais nous, on doit déjà vivre selon ces valeurs-là maintenant. Ne pas avoir peur d'être différent du monde là-dessus. On ne mange plus comme on mangeait avant, ni en quantité, ni certains mets. On ne mange plus de porc ou de fruits de mer parce que Dieu nous dit de ne pas en manger. Dans notre façon de parler, on doit changer. Avoir de la compassion envers les autres. Avoir plus de contrôle envers soi-même. Plus de patience. Servir les autres. Voyez-vous, tout ça fait partie des changements qui doivent continuer de s'opérer dans notre vie jusqu'au retour du Christ. Alors, voyez-vous, le repentir et la conversion, là, c'est beaucoup plus que de croire en Dieu, être dans l'Église, garder le sabbat et les fêtes. C'est, dans le fond, fondamentalement, et ça doit rester ça jusqu'au bout, faire un choix définitif entre le bien et le mal, et travailler ensuite tout le reste de notre vie à changer totalement les choses qu'on a à changer, à demander l'aide de Dieu et à l'utiliser. Vous savez, il y a des péchés qui sont évidents. Il y a des péchés qui sont évidents, qui sont précisés clairement dans la Bible. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 6. On n'est pas loin. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible nous donne à certains endroits des listes de péchés qui sont très, très claires, qu'on peut identifier facilement, qui ne sont pas nécessairement faciles à changer, mais sur lesquels on doit travailler. Il y a des choses qui sont plus faciles à changer, hein. Observer le sabbat ou pas. Ça, c'est plus clair. Ne pas manger de porc ou manger du porc, même si pour certains, ça a été plus difficile. Pour la plupart, on fait le choix puis on change. Mais dans d'autres cas, c'est plus difficile. Pour d'autres choses à changer, c'est plus difficile, dépendant aussi, bien sûr, des individus. Mais regardez ici, il y a plusieurs péchés qui sont décrits, qui sont très clairs, qu'on doit éliminer de notre vie. Il y en a d'autres, par contre, qui sont moins clairs, que Dieu doit nous montrer en cours de route. On en verra tantôt. Mais ici, il nous donne une liste, une certaine liste, c'est pas complet, mais une certaine liste des péchés qui sont évidents et qu'on doit éliminer de nos vies. Verset 9, 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça, c'est le principe au point de départ. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, faut être des vainqueurs. Faudra être des vainqueurs en train de lutter jusqu'au bout, jusqu'au retour du Christ, sincèrement, ardument. Il dit, je répète, ne savez-vous pas que les injustes, ceux qui commettent des injustices, qui continuent à les commettre, qui ne les changent pas, qui ne travaillent pas à les changer, n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Et après, il va donner certains exemples de ça. Verset 9, deuxième partie, ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Ici, c'est les fornicateurs, c'est-à-dire ceux qui pratique la sexualité avant mariage ou sans mariage, ni les fornicateurs, ni les idolâtres de toutes sortes. Et aujourd'hui, les gens adorent leur voiture, leur statut, leur argent, leur image, leur selfie, tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui ne changeront pas ces choses-là, qui ne travailleront pas à changer ces choses-là, ne seront pas dans le royaume de Dieu. C'est clair, très, très clair. Mais, regardez le verset 11. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, et c'est vrai pour vous, et c'est vrai pour moi. C'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. On a été appelés. On s'est repenti. On a eu le bonheur de passer par les eaux du baptême, de voir toute notre vie sale passer, être lavée complètement, d'avoir un nouveau départ et avec l'aide de Dieu de pouvoir travailler dans le même sens maintenant. C'est ça. Il dit, mais vous avez été lavés, Mais vous avez été sanctifié, vous avez été mis à part. À cause de ça, vous êtes saint, c'est-à-dire mis à part par Dieu pour un but spécifique, spécial, pour vous amener à la vie éternelle et vous amener à servir les humains dans le monde à venir. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Formidable! Ça, c'est la Pâque. C'est la fête des pains sans levain. Maintenant, je reviens à ça. Il y a des fautes évidentes, comme celles que je vous mentionne, mais il y a aussi des fautes secrètes. Il y a même des fautes qu'on ne connaît pas. Il y a des fautes cachées. Il faut les avouer à Dieu et demander son aide. Vous regarderez psaume 90, verset 8. Psaume 90 et le verset 8. Ça dit ceci. Dieu n'est pas Dieu. Dieu voit toutes mes fautes. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Même si j'essayais de cacher des fautes à Dieu, je peux les cacher à ceux autour de moi, mais je peux pas les cacher à Dieu. Et il dit, tu mets devant toi nos iniquités. Alors, on peut demander à Dieu de nous aider à mettre devant lui nos iniquités cachées. Autrement dit, avoir un cœur honnête devant Dieu. Pas jouer de jeu. Parce que c'est pas possible de jouer de jeu avec lui. Il faut pas le faire. On veut pas le faire non plus. Alors ça, c'est des péchés qui sont cachés. Par contre, il y a d'autres sortes de péchés dont on doit prendre conscience et pour lesquels on doit lui demander son aide. C'est des péchés que personne ne voit, mais que Dieu voit et que même moi, je ne vois pas. Vous pouvez aller voir psaume 19, verset 13. Psaume 19, verset 13. Regardez ce que David dit. Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses égarements? Un égarement, ça, c'est quelque chose qu'on a fait sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Qui connaît ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, des dizaines, des milliers de fois sans doute, de faire des choses sans m'en rendre compte qui ont créé des choses mauvaises pour d'autres. Alors, ça vous arrive à vous aussi. Il dit, qui connaît ces égarements, les choses qu'on fait sans s'en rendre compte et qui sont des transgressions ou qui font du mal à d'autres? Il dit, pardonne-moi, pardonne-moi ceux que j'ignore. Alors, voyez-vous, en l'approche de la fête qui vient, de la Pâque qu'on va prendre, on peut demander à Dieu de nous montrer les fautes que nous ne voyons pas, de nous montrer nos égarements afin qu'on corrige les choses qu'on a à corriger de ce côté-là. Chaque année, lorsqu'arrive la Pâque et les pains sans levain, nous devons regarder aussi quel progrès nous avons fait et quel progrès reste à faire. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Si vous regardez ça, puis si vous ne pouvez pas identifier aucun point où vous avez progressé, ça, ça doit allumer une lumière rouge. Ça doit mettre en branle une alerte de grands risques pour vous. Parce qu'il doit y avoir eu du progrès. S'il n'y a pas de croissance, il y a automatiquement décroissance. Parce que les événements avancent, eux. La compréhension que Dieu donne à ses serviteurs fidèles, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas en train d'avancer. Alors, si vous n'êtes pas capable d'identifier de petits secteurs où vous avez avancé, demandez à Dieu de vous aider, mais changez. C'est le temps de revenir à Dieu. De toute urgence, avant de prendre la Pâque. Parce que le temps se fait court aussi. C'est clair dans les événements qui se passent. C'est pas pour rien, vous savez qu'à quelques reprises dans la Bible, Dieu dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous pour vous aider à vaincre graduellement. » Et si c'est votre cas, si vous réalisez ça, demandez pardon à Dieu. Ça, c'est l'attitude pour se préparer à prendre la Pâque dignement, même si vous avez perdu du terrain au cours de l'année écoulée. Ne vous découragez pas, mais tournez-vous vers Dieu, suppliez-le. Jeûner peut-être avant de prendre la Pâque sur ces points-là, afin de redémarrer vraiment. Vous savez, un autre aspect aussi, certains pensent parfois qu'ils ont commis des péchés tellement graves que Dieu ne leur pardonnera pas. Dieu est plus grand que tous les péchés qui peuvent être commis. N'ayez pas cette idée-là, ça c'est une idée qui vient de l'adversaire, que Dieu ne vous pardonnera pas parce que vous êtes tellement méchants. Nous sommes tous tellement méchants au point de départ et nous avons tous contribuer à la mort du Christ. Je pourrais même dire, nous avons tous causé la mort du Christ. Parce que si j'avais été seul sur la terre, Christ aurait dû mourir pour moi, pour que je sois purifié de mes fautes. Parce que je ne peux pas me laver de mes fautes moi-même. Vous savez, au début de l'Église, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est très éloquent pour nous montrer que pour Dieu, il n'y a pas de péché trop grand à pardonner. Au début de l'Église, Dieu a choisi d'appeler un assassin. un meurtrier sanguinaire qui était sans pitié. Et il en a fait un de ses principaux apôtres. Quand il s'est repenti, qu'il s'est converti, qu'il a changé et qu'il a commencé à servir Dieu. Vous savez de qui je veux parler. Je l'ai cité tantôt, l'apôtre Paul, qui en est arrivé à dire même « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous, on doit arriver là également. Et c'est la même chose pour l'apôtre Jean. Il a changé lui aussi. Vous savez, on lit l'apôtre Jean, on sent une douceur dans ses textes, c'est vrai. Mais au début, là, l'apôtre Jean n'était pas comme ça. Vous irez voir dans Luc 9, verset 54, avec son frère Jacques, ils étaient appelés les fils du tonnerre. Et dans ce contexte-là, le Christ voulait aller dans une ville de Samarie. Il avait envoyé Jacques et Jean, son frère, pour préparer sa venue. Et la ville n'avait pas voulu les recevoir. Eux sont revenus vers le Christ. Et on dit, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? On va les brûler. C'était pas une douceur extrême. Il n'était pas encore converti, là. Il y a des choses qu'il n'avait pas compris. Mais le même apôtre Jean, vous le retrouvez plusieurs années après. Doux, patient, chaleureux, à la fin de sa vie. Et c'est là qu'il dit, mes petits-enfants, et là qu'il nous conseille, qu'il nous encourage. C'est ce genre de changement total que Dieu est en train d'effectuer dans vous et dans moi. Si nous lui demandons et si nous nous appliquons à mettre en pratique ses voies, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Et moi, ça me porte à demander, surtout à l'approche de la Pâque, à Dieu, la même demande que le roi David a fait dans le psaume 51. Quand Nathan est allé vers lui pour lui montrer qu'il avait péché gravement, David s'est repenti. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il dit, Père, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Fais que je sois bien disposé, que mon cœur humain soit tourné vers toi et que je veuille et que je sois capable de faire ta volonté. Maintenant, comme dernier passage, reportez-vous à Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Un passage tellement encourageant et c'est un beau passage pour les baptisés qui vont prendre la Pâque très bientôt. Pour la prendre dignement, avec joie, avec reconnaissance et surtout avec l'attitude de dire à Dieu, crée en moi un cœur pur et bien disposé et donne-moi de me repentir encore davantage au cours de l'année qui vient pour m'approcher de toi afin que tu t'approches de moi pour que je puisse croire réellement, grandir spirituellement et bien me préparer aux choses qui viennent. Hébreux chapitre 4 et le verset, commençons au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, quand le Christ a été ressuscité, il a traversé les cieux, il est retourné au trône de son Père, où il est pour le moment, en attente de la directive du Père de revenir sur la terre à la septième trompette pour prendre la gouvernance de toute la planète. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Il faut être ferme. Et la fermeté, elle vient de ce qu'on fait. Nos études, nos supplications à Dieu, mettent en pratique les choses qu'il nous montre. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Le Christ sait que nous sommes faibles. Il est passé par là. Lui n'a jamais péché, mais il a vu ce que c'était, les faiblesses humaines. Il a vu à quel point c'était fort dans les êtres humains. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Un jour, on sera capable d'être comme lui. Approchons-nous donc, et c'est surtout le verset 16 sur lequel je vais attirer votre attention, approchons-nous donc avec assurance, approchons-nous donc de la Pâque avec cette assurance, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Et on a chaque jour besoin de demander à Dieu pardon des erreurs qu'on a faites dans la journée, de celles qu'on sait, de celles qu'on ne sait pas. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, d'obtenir pardon, de trouver grâce et pour être secouru dans nos besoins. C'est lui qui va nous mener à terme. C'est lui qui donne la foi et qui l'amène à quoi? À la perfection. C'est notre sauveur parfait. Préparez-vous très bien à prendre la part, vous qui êtes baptisés. Et vous qui n'êtes pas encore baptisés, mais qui êtes à l'Église, préparez ces choses-là pour le jour où vous serez baptisés et où vous aussi pourrez bientôt dans les années à venir, prendre la Pâque.